Et bonsoir Olga.
Bonsoir Sabine.
Je suis ravie de vous récupérer, de vous retrouver.
Et moi aussi.
Alors, on s'était parlé, c'est dimanche soir, je crois.
Oui.
En fin d'émission, et on n'avait pas eu le temps d'aller plus loin sur un sujet qui était vraiment intéressant. On avait parlé de l'adoption et des problèmes d'un adolescent. Il a 15 ans, je crois, 15-16 ans, votre...
C'est ça, tout à fait.
Est-ce que pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, vous pouvez juste nous faire un petit résumé, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Mon fils a 16 ans. Nous l'avons adopté quand il était âgé de 5 ans et demi. Il a très vite réussi à s'adapter parfaitement à la vie ici en France. Nous l'avons adopté à l'étranger, en Chine. Et malheureusement, lorsque en 2016, mon mari a eu un souci de santé et il est décédé en 2017, donc il y a 4 ans, ça a été un coup très dur pour à la fois mon fils et moi-même.
Bien sûr.
Et maintenant qu'il a 16 ans, tous ces traumatismes se manifestent de plusieurs façons, donc des pensées suicidaires et une colère très intense, qui devient pour moi difficile à gérer et qui est très douloureuse pour lui et en grande souffrance.
Oui, bien sûr. Et ce qu'on avait commencé à se dire, c'est que déjà, les enfants qui sont adoptés ont souvent, de manière plus ou moins présente, une énorme colère en eux, évidemment. Parce que la vie ne leur a pas fait de cadeau à la naissance. En plus, c'est un petit bonhomme qui est resté 5 ans. J'imagine, oui. Dans quelles conditions de vie?
Alors ça, c'est particulier. On a très, très peu d'informations. Les autorités des pays... les informations qu'on peut avoir dépendent vraiment du type des autorités des pays. Et nous, en Chine, on a vraiment eu accès à très peu de choses. Même quand on est allé le chercher, on nous a limité à la salle de réception où on a reçu. C'était vraiment ça, le mot reçu, l'enfant.
Ah, vous n'avez même pas vu là où il dormait, là où il vivait?
Non. Pourtant, les gens de l'association par laquelle on l'a adopté, les responsables étaient venus avec moi. Ce sont des personnes très professionnelles, très compétentes, qui avaient des contacts avec le CCAS, qui est l'équivalent de la DAS chinoise. Mm-hmm. Avaient noué des contacts très, très forts, très importants, à un haut niveau, n'ont pas pu accéder, pensaient pouvoir visiter l'orphelinat, ils n'ont pas pu accéder aux chambres.
Malgré ça, ils n'ont pas réussi.
Non.
Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous savez quand même s'il a toujours été dans une institution ou s'il a été arrivé peut-être à 2 ans ou à 3 ans ou tout petit?
Non, il a été abandonné à la naissance.
À la naissance, donc c'est quand même un petit garçon qui a un lourd passif. Parce que 5 ans, c'est long, c'est très long.
Oui.
Émotionnellement,
oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont imprimées en lui.
Oui, il a des souvenirs de l'orphelinat et ce sont des souvenirs... Maintenant qu'il a 16 ans, il arrive à analyser que tout l'affect, toute la construction qui lui a manqué, arrive à comprendre ça.
Bien sûr. Alors j'imagine que comme tous les enfants adoptés, il y a eu un suivi psychologique au début et peut-être un peu après. Comment ça s'est passé avec vous et lui?
Pas du tout. Enfin, nous, on habite dans le sud de la France. Donc à son arrivée en France, il y a eu des suivis plutôt médicaux. Son adaptation se passant plutôt bien scolairement. C'est un petit bonhomme qui respirait la joie de vivre, qui riait beaucoup, qui était très énergique, qui ne montrait aucun signe extérieur de mal-être.
D'alarmant, quoi, d'accord.
Oui, aucun. On s'est rendu compte, en fait, à la fin de son parcours scolaire en primaire, qu'il avait souffert de harcèlement, de racisme. Et c'est à travers ça qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait eu des soucis. Et c'est le décès de mon conjoint, donc de son père, qui a tout déclenché. Même s'il s'est évertué à cacher, à ne pas montrer. Et c'est cette année que ça explose, en fait, parce qu'il ne peut plus contenir tout ça. Il n'y arrive plus.
Oui, on avait commencé à en parler aussi. C'est un deuxième traumatisme, un enfant qui a été adopté et dont les parents divorcent ou dans l'un des deux décèdent.
Oui.
C'est épouvantable, c'est deuxième tsunami, quoi.
Ben oui, parce que quand, dans la procédure d'adoption, les autorités font très attention à confier des enfants à des couples qui sont en bonne santé. Et c'est pas pour rien, voilà. Et bon, les hasards de la vie
oui,
font qu'on peut pas prévoir, voilà.
Vous savez, même les couples stables, qui sont très stables au moment de l'adoption, sont souvent déstabilisés et divorcent après. Hein. Ça arrive aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais croyez-moi, ça arrive aussi. Hein. Parce que c'est pas toujours si facile que ça, parce que malheureusement, les adoptions ne se passent pas toujours bien. Et quelquefois, dans ces cas-là, c'est courage fuyons et le divorce arrive dans les années qui suivent. Et ça aussi, c'est très compliqué. Là, ça déclenche des colères monumentales chez ces enfants-là aussi.
Oui, bah, c'est un peu ce qui se passe avec mon fils. Il a des colères intenses, fortes. Mmh. Et pour le coup, là, c'est moi aussi qui, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'arrive plus à gérer. C'est comme si mon cerveau disait stop, je peux plus, je suis extrêmement fatiguée de ça.
Mais c'est normal émotionnellement.
Et fatiguée de pas pouvoir trouver là où les clés ou la façon de l'aider à.
Alors. À avancer, oui. Je pense qu'avant qu'il avance, il faut qu'il sorte toute cette colère et cette tristesse.
Mais c'est ça.
Il faut que ça sorte.
C'est ça qui est compliqué.
Alors j'ai beaucoup pensé. Oui, pardon, allez-y.
Oui, non, allez-y.
Je vous disais, j'ai beaucoup pensé à vous cette semaine parce qu'on s'était dit à la fin, il y a deux choses. On va pour l'instant mettre de côté le côté enfant adopté et juste s'intéresser à lui. Ça reste un garçon qui a entre 15 et 16 ans.
Oui. Hein,
on en riait ensemble dimanche dernier, ça reste quand même un ado.
Et oui.
Avec des soucis d'ado, et ça me paraît logique.
Et oui, bien sûr.
Et là où je vous dis que j'ai pensé à vous, c'est que je recommande souvent un petit livret qui s'appelle attendez, ça va me revenir. Guide pour les parents d'ados qui pètent les plombs, quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé en PDF. Ça veut dire que je l'ai téléchargé et je le mettrai demain sur ma page Facebook Sabine Marin Officielle.
Ah,
comme ça, je pense qu'il est accessible, puisqu'il est de toute façon accessible en PDF. Ça veut dire qu'il est accessible pour tout le monde. Mm-hmm. Et le titre exact, je ne vous garantis pas, mais c'est quelque chose comme le guide, je ne sais plus quoi, pour les parents d'ados qui pètent les plombs. Et franchement, ça va vous faire du bien parce que c'est plein d'humour. Et ça nous montre que
je le veux bien, j'en ai besoin en ce moment.
Voilà, ça c'est pour la partie ado classique, je dirais.
Oui, oui. Hein,
les murs auxquels se confrontent tous les parents d'ado et toutes ces incompréhensions. Et c'est un petit livret qui a été fait par un collectif de parents avec plein de dessins humoristiques et plein de textes qui font vraiment du bien parce que sous couvert d'humour, ça apprend plein de choses aussi. Donc ça c'est vraiment sympa. Je vais penser demain à le mettre sur ma page pour que vous ayez accès et tous ceux que ça intéresse aussi. Ça, c'est la première partie. Maintenant, effectivement, chez lui, il y a une deuxième couche, forcément. Il n'y a pas juste la crise d'ado, je deviens pénible.
C'est ce qui est parfois difficile pour moi, de distinguer ce qui fait partie de son passage, j'allais dire...
Obligé, quoi, oui.
Obligé de franchir le cap de l'adolescence, de chercher à se confronter au cadre, à se soustraire à l'autorité, etc. Enfin, qui fait partie du parcours qui le construit aussi, de cette blessure profonde qu'il a et qui le fait souffrir horriblement. Quoi.
Alors, je ne me souviens plus si on en avait parlé. Est-ce qu'il est suivi, ce garçon ?
Oui, il est suivi par la maison des adolescents de l'endroit où nous vivons et par un psychologue. Il est suivi depuis janvier. Et il avait été suivi lors du décès de mon époux pendant une année et demie environ.
Est-ce que ça lui a fait du bien ? Est-ce qu'il a pu vraiment exprimer les choses et parler ?
Alors, parler, il parle facilement. Ce qu'il y a, c'est que souvent, il dit mentir et s'adapter à ce qu'on attend de lui. Il est dans un souci de ne pas décevoir. C'est ce qui nous a un peu leurré aussi au départ. Cette capacité d'adaptation qui nous paraissait époustouflante, c'était en fait un désir de coller à ce qu'on attendait de lui. Et c'est vrai que quand mon mari était décédé, on avait interrompu le suivi psychologique parce qu'un jour il m'avait dit « je dis ce qu'on a envie d'entendre que je dise ».
Aïe, 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 oui.
Voilà.
Ça, c'est pas
et là,
bon.
J'ai l'impression par contre qu'avec le psychologue de la MDA, il n'arrive pas à faire ça. Il ne peut pas le faire. Bien que je n'ai aucun retour de ce psychologue-là, je vois bien que mon fils, quand il en ressort, il n'est pas tout à fait dans le même état que quand il est rentré.
Donc il s'est passé
il y a bien quelque chose qui est travaillé.
Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Oui.
Et il est tout à fait normal que vous ne lui demandiez pas ce qui s'est passé parce que ça ne se fait pas.
Bien sûr, je m'immisce jamais là-dedans.
Ça, je pense que vous l'avez très très bien géré, très bien compris. Mais si vous voyez que ça change, c'est que ça bouge. Donc c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous lui avez déjà dit, dans une conversation calme, dans des moments où ça va bien, que vouloir plaire ou vouloir sauver les apparences, c'est pas une bonne chose?
Et qu'il a...
Oui, vous lui avez dit tout ça.
Je ne veux pas qu'il soit parfait.
Que personne ne demande, de lui demande d'être parfait, surtout.
Oui, c'est ça. Que je l'accepte comme il est. Que pour moi, je ne veux pas qu'il fasse des choses pour me faire plaisir. Je veux qu'il se fasse plaisir à lui. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit le mieux possible dans ses baskets, qu'il ait confiance en moi et qu'il accepte la main que je lui tende quand il en a besoin, qu'il sache que je suis là,
que
je ne le lâcherai pas.
Attention, parce que là, c'est ce que vous m'avez dit aussi. Bien sûr, il le sait, mais je pense qu'il ne veut pas non plus vous accabler parce que vous aussi, vous êtes en deuil. C'est compliqué
ça.
De s'accrocher à une maman quand on sait qu'elle est aussi fragile. Et puis, il peut y avoir une pudeur aussi de ce côté-là. Et il est normal que ça ne soit pas à vous de soigner ça chez lui. Ça, c'est logique.
Oui, oui.
C'est logique.
Mais il me l'a déjà dit parfois qu'il sentait que j'étais soit occupée, soit fatiguée, et qu'il n'osait pas dire... voilà. Ça, il a verbalisé ça.
C'est une bonne chose. Peut-être pourriez-vous lui dire dans ces cas-là, écoute, parle-moi et si je ne suis pas en état, je te le dirai. Les jours où je ne peux pas, je te le dis. Les jours où je peux, on se parle. Que les choses soient claires, tout simplement.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous parlez avec lui beaucoup de son histoire?
Oui, oui, oui. On lui a fait, quand son père était encore vivant, il nous a demandé à un moment donné d'où est-ce qu'il venait, où est-ce qu'il avait été abandonné. Donc, on lui avait demandé s'il voulait qu'on regarde ce qu'on avait de lui dans notre dossier. Il nous a dit que oui, bon... on lui a montré les papiers, les petits fascicules qu'on nous avait donnés de l'orphelinat. On lui a expliqué, on lui a lu, on lui a traduit, puisque c'était en anglais, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et il a conservé, on a conservé dans une boîte ses affaires.
Il n'a jamais eu l'envie de retourner dans son pays d'origine, avec vous?
Il en a parlé.
Oui.
Il en a parlé surtout l'année dernière. Et c'est vraiment parce qu'il y a des moments où il en parle, il y a des moments où il se dit qu'il n'est pas encore prêt, mais qu'il le fera.
Oui, je pense que c'est une étape importante. C'est vraiment une façon d'accepter qu'il y a eu ça, et il y a eu l'avant et l'après.
Oui, et à un moment donné, quand il en parlait de ce retour, c'était surtout pour essayer de trouver quelque chose. Maintenant, quand il en parle, c'est « je veux revoir là où j'étais ».
Peut-être fermer une page, mais savoir de quelle page il s'agit en étant sur place, c'est possible aussi ça.
Parce qu'en fait, il a très peu de souvenirs lui aussi. Il a des images très précises, mais en même temps, quand on discute avec lui, il y a des souvenirs qui s'effacent.
Il nous a raconté quand il était plus petit. C'est normal.
Maintenant, il nous dit je me souviens pas vous l'avoir raconté ça.
C'est normal. Il était vraiment tout petit. Est-ce que vous êtes en contact avec des familles adoptantes, d'autres familles, pour échanger?
Alors, on l'a été dans le cadre d'une association.
Oui.
Avec le Covid, chaque année, il y avait un repas, des retrouvailles où toutes les familles se retrouvent, on peut discuter, etc. Avec le Covid, ça n'a pas été possible. Mais on était en contact avec... l'organisme, la COFA, qui nous a permis d'adopter notre fils et qui est basé sur Marseille. On retournait les voir parce qu'elles étaient là le jour où on adoptait notre fils. Et notre fils les connaît et on y allait une fois par an pour les rencontrer, pour discuter un peu avec elles. Et à un moment donné, notre fils a exprimé l'idée de ne plus vouloir rencontrer des familles adoptantes, ça le gênait. Il y avait quelque chose dont il avait besoin de mettre à distance.
D'accord, de ne plus être étiqueté finalement.
Oui, oui.
D'accord, je peux comprendre ça.
Oui, parce que c'était... Ça a été douloureux de s'entendre être rejeté verbalement par les enfants à l'école. De ne pas trouver sa place, d'être victime de racisme. Voilà, disons
mais j'allais vous dire, ça n'a rien à voir avec l'adoption, c'est du racisme bête et méchant, quoi. C'est pas du racisme parce qu'il a été adopté, c'est juste parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est de la pure bêtise humaine, ça. Et ça, j'espère qu'il va réussir à prendre le dessus et à comprendre qu'il est au-dessus de ça, quand même.
Il a franchi un cap cette année par rapport à ça, je pense. Oui, oui. Il y a des choses qu'il arrive à mieux gérer. Il est très, 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 très fort psychologiquement.
J'ai l'impression, oui, que c'est un petit grand bonhomme qui est assez costaud, quand même, à l'intérieur.
Oui. Ce qu'il y a, c'est que c'est cette émotion de colère qui le traverse et qu'il n'arrive pas à gérer. Quand il est dans cet état de frustration et de colère, il ne peut pas analyser. Il ne peut pas prendre le recul parce qu'il a la tête dans le guidon. Il est un peu enfermé, emprisonné dans cette colère pour l'instant.
Alors, je peux vous donner un petit conseil qui, normalement, est un conseil qu'on donne aux parents d'enfants plus jeunes, mais ça peut fonctionner aussi pour lui. Est-ce que vous connaissez le coussin de la colère ?
Oui.
Vous l'avez fait avec lui ?
On l'a utilisé quand il était plus petit.
Et oui, mais je me demande si ça ne pourrait pas lui servir encore maintenant.
Ben maintenant, il n'a pas le coussin de la colère, il a le mur de sa chambre, il tape dedans.
Oui,
parfois.
Non, mais ça, c'est une très très mauvaise idée.
Mais ça, ça lui fait mal.
C'est une mauvaise idée pour lui, pour son bras et pour le mur. Non, ce n'est pas une bonne idée. Mais vous pourriez lui en reparler, même en souriant, en lui disant, et si on recommençait ce coussin de la colère ? J'ai peut-être expliqué pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. On demande à un enfant de choisir quelle est la couleur pour lui qui représente la colère. Souvent, c'est le rouge qui ressort en premier. Ou le noir, ça dépend. On achète un coussin ou on fabrique un coussin de cette couleur-là et on lui explique qu'à chaque fois qu'il a une crise de colère, plutôt que de faire n'importe quoi, il a le droit de taper dans le coussin pour décharger sa colère. Et moi, je pense que ça marche très bien aussi avec un ado, ça marche aussi avec un adulte.
D'accord, oui, je n'avais pas pensé à recommencer, je l'avoue. Voilà. Moi, on le faisait quand il était beaucoup plus petit.
Mais petit, tu n'as fait pas dans le mur ?
Non.
Eh oui. Et maintenant, ça serait bien qu'il dévie. Elle a besoin de sortir cette colère. Alors qu'elle sorte par des mots quand il est en thérapie, c'est très bien. Il faut qu'elle sorte physiquement. Et si vous faites des crises de colère comme ça, c'est un bon moyen de l'aider à exprimer ça. En disant, voilà, t'as le droit de taper, mais pas n'importe où, pas sur n'importe quoi.
Il y a quelque chose qui est là. Dans l'entourage qu'on a, on a la chance d'avoir... il a la chance d'avoir un super parrain. Et qui lui a proposé, justement... un sac de boxe, de faire des arts martiaux avec lui.
Oui, j'y pensais aussi. Voilà. Ouais.
Et mon fils a toujours opposé un non. Il a peur de cette violence intérieure. Et il a peur de la faire sortir.
Il faut lui expliquer que c'est justement une manière de la canaliser, pas de la faire sortir n'importe comment. Les arts martiaux sont excellents pour ça. Il ne s'agit pas de faire sortir sa violence, au contraire, il s'agit d'apprendre à s'en servir.
Donc voilà, on en est là et c'est vrai que là, pour cet été, on a repensé à lui proposer justement de faire des mini-stages où il peut essayer d'extérioriser ça tout en étant dans un cadre qui le lui permette. En plus, avec cette année particulière, il n'a pas fait de sport.
Et oui, c'est ce que j'allais vous dire, forcément, ça n'a rien arrangé ça. Mais est-ce qu'il rejette tous les sports ou est-ce qu'il rejette les arts martiaux ?
Il a tendance à rejeter les arts martiaux particulièrement. Voilà. Parce que on lui a proposé d'avoir un sac de boxe à la maison, on lui a installé on lui a dit écoute,
punching
quand tu
ball,
seras en colère,
un petit punching ball.
Taper,
oui, aussi.
Voilà, tape dedans et il ne veut pas le faire, il ne l'a jamais fait.
C'est curieux ça. Il a peur à mon avis, il a peur de ne pas avoir de limites.
Mais c'est ça. Il a peur d'ouvrir la vanne parce qu'il se demande s'il va l'arrêter. Ou si ça, elle ne va pas l'emporter trop loin. Je pense, d'après ce qu'il nous explique.
Ce qui est compliqué là, c'est qu'on ne sait pas sur quoi il travaille avec son thérapeute. Donc c'est difficile de savoir est-ce qu'il travaille là-dessus, est-ce que son thérapeute l'aide à évacuer cette colère-là d'une autre manière. Mais ça, on n'a pas l'info. Donc. On ne peut que supposer. Ça fait combien de temps là qu'il le voit, ce thérapeute, où vous avez l'impression que les choses bougent un petit peu quand même?
Ça fait 6 mois qu'il le voit.
Donc, c'est
sur ses frais et sur certaines choses, je sens qu'il y a des petites améliorations. Sur d'autres, pas vraiment. Pas vraiment. Mais comme je n'ai pas de retour, je n'ai pas d'infos, même minimes, c'est difficile de savoir parce que la colère, elle est l'expression de différentes choses chez lui. Et puis, le thérapeute lui propose des rendez-vous espacés en fonction aussi de l'état dans lequel il est avec lui. Parce que des fois, c'est des rendez-vous chaque semaine et puis des fois, c'est des rendez-vous tous les 15 jours. Voilà, donc c'est... je sais maintenant que quand c'est toutes les semaines, c'est qu'il y a un travail nécessaire parce qu'il a senti qu'il était mal.
Ce qui est plutôt bien, ça me rassure de savoir qu'il est suivi de près comme ça, c'est bien.
Et là, on vient de lui proposer en parallèle de l'art-thérapie.
Ah, si ça peut le tenter, pourquoi pas.
J'étais en train de l'art-thérapie, de réfléchir mais en individuel.
Oui.
Et moi, j'avais essayé de lui proposer de rencontrer, en plus de ça, quelqu'un qui travaillerait sur le comportement ou en EMDR. Moi, j'essaye de fouiller toutes les possibilités qui lui permettraient d'exprimer ce qui verrouille au niveau de la colère. Là.
Est-ce que l'art-thérapie lui donne envie? Est-ce que ça lui parle?
Oui, ça, il en a très envie. Il commence la semaine prochaine,
ça,
il commence mardi.
Ça, c'est très bien.
Il aime beaucoup dessiner.
Ah, ben voilà, il y a un très bon moyen d'exprimer les choses aussi, ça, le dessin.
Est-ce qu'il aime beaucoup dessiner.
Est-ce qu'il aime les animaux? Ou pas spécialement?
Bah, il aime bien, mais à un moment donné, je lui ai demandé s'il voulait avoir un chien ou un chat à la maison. Donc, on a eu un chat, puis le chat est décédé. Donc, après, on n'en a pas repris. Et bon, je lui ai demandé plusieurs fois.
C'est pas à ça que je pensais. Hein. Non.
Ah,
je pensais, par exemple à l'équithérapie.
Il peut pas. Il est allergique aux chevaux.
Ah, zut. Ok, on efface tout.
Non, il est très très allergique aux chevaux et il peut pas s'approcher des équidés.
D'accord. Parce que c'est aussi une très très bonne thérapie pour des enfants qui ont des choses à évacuer. Parce qu'avec l'animal, tout change, quoi. Mais là, effectivement, on oublie ce que j'ai dit. C'est pas une bonne idée. Mais c'est une excellente voie, ça, qui soit ouvert à l'art-thérapie, vraiment.
Mais c'est quelqu'un qui est... Mon fils est très, très sensible. Très sensible aux autres. Très empathique. Moi, je m'étais demandé, je sais pas, je vous demande aussi votre avis... éventuellement de lui proposer d'adhérer à une association en tant que bénévole où il se sentira utile aux autres, où qui pourra le restaurer un peu son estime de soi parce que son estime de soi elle est très très basse, très 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 basse.
Ben forcément,
très rabotée.
Quand on vit au monde avec l'idée que celle qui a été ma mère n'a pas voulu de moi, c'est que j'ai pas de valeur, forcément. C'est compliqué,
mais
ça aussi.
Dans ses crises de colère, il a des mots très durs envers lui. Très durs.
Parce que c'est aussi un grand classique, ça. L'enfant pense que c'est parce qu'il vaut rien qu'il a été abandonné. Très inconsciemment, bien sûr. Mais pour répondre à votre question, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu solitaire. Je sais pas, demandez-lui pour une association s'il a envie d'être bénévole et d'être dans une équipe, dans un groupe. J'ai pas l'impression pour l'instant qu'il ait très envie de s'intégrer dans des grandes équipes comme ça.
D'accord.
Mais posez-lui la question, il vous le dira sincèrement. L'idée me plaît bien, mais peut-être pas tout de suite. Je pense qu'il a besoin d'abord de se calmer un peu, d'apaiser certaines choses avant d'aller s'occuper des autres. C'est compliqué de donner ce qu'on n'a pas, vous savez.
Eh oui.
Donc il vaut mieux pour l'instant qu'il se répare lui avant d'aller essayer de réparer les autres.
Eh oui, mais c'est vrai que c'est ce que moi souvent je lui dis quand il me parle de ses amis, du fait qu'il est très... très en empathie avec eux, qu'il essaie de les aider. Je lui dis souvent, mais aide-toi toi-même et après tu pourras encore mieux les aider. C'est pour ça que j'avais pensé à ça, mais effectivement...
Peut-être pas tout de suite, en tout cas.
La première personne qui doit aider, c'est lui, oui.
Mais je pense vraiment que c'est un très très bon chemin, l'art-thérapie, surtout s'il est bon en dessin, s'il aime ça et s'il a envie. Ça, c'est formidable.
Oui,
parce que c'est
oui,
très compliqué d'amener.
Très envie.
Voilà, ça, c'est très très bien. C'est très dur d'amener un ado à faire une thérapie quand il ne le veut pas. Donc, quand il le veut, c'est une très bonne chose. Vous savez quoi ? Le temps passe tellement vite avec vous, Olga, que c'est déjà la fin de l'émission à nouveau.
Pardon.
Allez scanner sur ma page Facebook demain, je mettrai pour vous et pour,
oui.
et pour tous les autres, bien sûr, ce petit manuel qui au moins vous fera sourire, je l'espère.
Oui, bien sûr.
Et puis n'hésitez pas à me dire dans quelques temps comment ça a évolué et si vraiment cette art-thérapie lui a fait du bien, parce que je suis persuadée que ça va changer les choses aussi. Et reparlez-lui du coussin de la colère, on ne sait jamais.
Ben, très bien, je vais suivre vos conseils. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre émission qui est plus qu'utile.
Merci à vous, Olga, de votre confiance. Je vous embrasse très fort.
Merci, au revoir.
À bientôt.